Orchamps. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Orchamps ce soir en compagnie de Matt Jacob. Matt Jacob, vous êtes photographe, auteur de nombreux travaux qui vous ont mené à travers le monde. Et il y a eu tout un travail très long sur lequel nous allons revenir tout au long de cette émission, sur le Chiapas au moment de l'arrivée du commandante Marcos. Et il y a très récemment un autre type de voyage, un peu moins lointain, quoique en apparence seulement, puisqu'il vous a mené dans le monde du flamenco. Vous avez parcouru le monde aussi en essayant de comprendre ce que ça voulait dire éduquer. Et vous avez fait avec Olivier Kuhlmann un livre absolument incroyable qui s'intitule « Les mondes de l'école ». On reviendra sur ce que c'est qu'une salle de classe. Qu'est-ce que ça veut dire faire une photo? Et quelle est la première photo que vous ayez vue quand vous étiez enfant qui vous a peut-être guidé dans ce qui est devenu votre vocation?
Bonsoir Laure Adler. Alors la question est vaste. La première photo, je dirais plutôt qu'une photo en particulier, ce qui m'a réellement choqué quand j'étais gamin, c'était la capacité de la photographie à arrêter la vie et à arrêter le mouvement et qu'on puisse ensuite penser le mouvement, l'observer, le réfléchir. Et c'est quelque chose que bien évidemment j'avais vu nulle part ailleurs. J'étais encore trop petit probablement pour m'intéresser à la peinture, qui le fait bien entendu, qui arrive à synthétiser une scène de la vie des hommes, de la tragédie, de la joie, de la beauté de la vie, ou l'inverse. Et la photographie m'a totalement subjugué. Bah, tout de suite, je pense que j'étais peut-être jeune adolescent, et petit à petit, je me suis mis à la pratiquer. Mon père m'a mis un appareil photo dans les mains, comme c'est souvent le cas, et je me suis mis à fabriquer des objets dont le mouvement était arrêté.
Et à partir de ce moment-là, vous avez décidé d'apprendre la photographie ou ça s'apprend pas? Savoir voir, ça s'apprend?
Je suis pas certain que ça s'apprenne, mais je pense que la géométrie, c'est quelque chose qu'on a, c'est comme peut-être l'oreille musicale chez les musiciens. Peut-être que le toucher chez le peintre. Chez le photographe, il y a quelque chose qui doit être probablement inné, mais bien entendu, ensuite qu'on apprend une grammaire, il y a un langage de la photographie qui est important, qui est en pleine explosion aujourd'hui. La photographie arrive à multiplier les langages, à peaufiner les multiples grammaires possibles. Et donc c'est un outil de narration extraordinaire. Et quand j'ai découvert la photographie, donc petit à petit j'ai découvert ce mouvement arrêté, cette magie de l'instant. Et ensuite j'ai découvert qu'en additionnant les images l'une avec l'autre, l'une après l'autre, on arrivait, en fabriquant des livres, en faisant une succession d'images, on arrivait à créer des sortes de phrases à travers les images. Et je considère aujourd'hui un peu que les images sont comme les mots, qu'ils nécessitent donc une grammaire, donc un savoir-faire pour la manipuler, et qui racontent des histoires.
Depuis Roland Barthes, on sait que les écrivains s'intéressent au combien à la photographie, à la fois comme une pratique de leur vie quotidienne, mais aussi comme un exercice qui peut alimenter leur fabrique imaginaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, avec l'explosion de la possibilité pour chacun de nous de se croire photographe, y compris avec les iPhones, nous photographions toute la journée et nous envoyons à nos proches ou à nos copains des photos que nous prenons comme si nous savions faire de la photographie. Est-ce que vous pensez que la photographie continue à être un art ?
Plus que jamais, je pense que les artistes et les travaux de qualité se multiplient. Par contre, effectivement, ce dont vous parlez, ce sont les balbutiements de la photographie qui sont générés par une technologie qu'on maîtrise. En l'occurrence, on maîtrise la technologie, mais on ne maîtrise pas la grammaire, on ne maîtrise pas le langage. Et donc, ce sont deux choses différentes. Je pense qu'il y a un écart de plus en plus important. Quand j'ai commencé la photographie il y a 25-30 ans, bien évidemment, le numérique n'existait pas. Et au-delà du numérique aussi, la diffusion n'existait pas. Les livres étaient relativement confidentiels et très rares. Donc les gens qui se projetaient dans un livre en faisaient la démarche. Donc il y avait une démarche, une quête, une nécessité de comprendre le regard de l'autre, peut-être une fascination pour ce dont je vous parlais, de la magie.
Arrêter le temps,
exactement, qui est un grand fantasme de l'homme depuis toujours, hein, on remonte à jusqu'à la grotte de Lascaux pour parler de ça, mais je pense que ça a toujours existé du fait que la vie ne fait que passer, ne s'arrête, le temps ne s'arrête jamais, mais la vie s'arrête en l'occurrence. Donc je pense que, pour revenir à notre sujet de tsunami des images qui déferlent quotidiennement sur le net, dans nos téléphones portables, qu'on appauvrit le langage, mais c'est pas grave. Je pense qu'on est sur une autre quête. On a besoin de parler de nos proches, on a besoin de parler de ce qu'on a vécu, on a besoin de partager avec un réseau proche et lointain, et la photographie en fait partie parmi d'autres choses. Twitter utilise des mots, Facebook, des images en tout genre, des images animées, etc. Donc on est, je crois, dans le balbutiement de la grammaire de l'image. Il faut rappeler que la photographie qu'on pratique aujourd'hui de type documentaire, on va dire, à un siècle et demi, si on la prend très très loin avec les premiers procédés qui étaient quand même très archaïques, entre guillemets. Et que le langage, combien de centaines de milliers d'années a le langage ? On est sur une grammaire qui est en train de se construire et qui, en l'occurrence, j'espère, ne va pas être trop marquée par l'usage pauvre, on peut dire, des images dont qu'on fait aujourd'hui.
En tout cas, le métier explose littéralement. Vous en êtes un des artisans dans la réflexion que vous menez sur votre propre pratique. Vous en êtes aussi pas seulement théoricien, mais aussi praticien, puisque en 1991, je crois, vous avez été un des cofondateurs d'une agence ô combien célèbre qui s'intitule Tendance Floue. Aujourd'hui, qu'en est-il en 2016 de cette invention de ce collectif en particulier, de cette pratique du photojournalisme?
On est à cheval exactement entre deux siècles, entre deux millénaires, entre deux technologies, entre peut-être aussi deux économies, parce que quand on a commencé il y a 25 ans, on était, on va dire, peut-être à la fin de la grande époque du photojournalisme et de la photographie documentaire, et on en était au balbutiement, je crois, de l'art plastique, enfin de l'usage de la photographie dans l'art plastique et de la photographie contemporaine, qui existe depuis bien plus longtemps, mais disons qu'elle était en train de d'exploser à peu près à ce moment-là. Donc on a vécu un peu dans cette schizophrénie-là. On a beaucoup évolué. Je crois qu'on a été au départ très attiré par l'attraction du monde, par aller observer ailleurs ce qui se passe, parler de la vie autant à travers des événements que du quotidien.
Rue, l'aventure.
Au coin de la rue, il y a des choses, surtout en photographie, des choses exceptionnelles qui se passent. Je pense à des images de William Klein à New York, parce que ce sont, en l'occurrence, que des coins de rue. Dans les années 50-60, où la ville explose, le photographe a réussi à saisir toute la beauté de l'humanité et en même temps toute la tragédie de l'homme.
Nous allons écouter, puisque vous en parlez, William Klein, un de vos maîtres, Matt Jacob. C'était au micro de Jean Dève, c'était dans Le Bon Plaisir, Archivina, 1er janvier 1992.
Je suis revenu à la photographie il y a quelques années. Je me suis rendu compte qu'on exposait les photos, on les vendait, etc. Et on m'a demandé d'exposer, et j'ai vu qu'il y avait une mode d'exposer les photos pour leur donner une allure de gravure, de pointe sèche, de quelque chose de valable, dans des cadres avec des passe-partout et des trucs comme ça. Bon, c'est vrai, les premières expositions que j'ai eues, j'ai dit très bien si on vend mes photos, et si on les expose comme ça, pourquoi pas. Mais j'ai commencé à me poser des questions, que faire avec une photo ? Parce que quand j'ai fait les photos dans le temps, c'était pour faire des livres. En dehors de ça, j'en faisais rien. Si je donnais une photo à quelqu'un, il le mettait dans un tiroir, il l'épinglait au mur avec une punaise, s'il ne le jetait pas. Mais la question de comment exposer une photo et que faire d'une photo en dehors d'un bouquin, je ne me la posais pas. Mais peu à peu, j'ai commencé à penser que peut-être on peut mettre une photo sur un mur autrement que la façon dont on mettait les photos sur les murs.
Alors, on vient d'entendre William Klein, c'était en 92, aujourd'hui on est en 2016, il y a des expositions de photographie, des galeries qui exposent que des photographies, des foires d'art photographique. La photographie, en ce moment même, depuis un an et demi, devient plus chère que une toile ou une installation. Pourquoi, à votre avis, Matt Jacob ? À condition qu'elle soit signée de grands maîtres comme William Klein, Cartier-Bresson ou d'autres.
Je ne saurais
pas. Est-ce que c'est pas grave pour la photo d'une certaine façon ?
Ce qui est grave, qu'il y ait un public qui s'intéresse à la photo et qu'il y ait des collectionneurs qui investissent dans la photographie, c'est plutôt bien. Ce qui est grave, c'est que d'un autre côté, la photographie se paupérise, en fait.
C'est-à-dire que vous êtes de moins en moins nombreux, vous avez le moins en moins de marge pour pouvoir travailler.
Voilà, il y a de moins en moins d'assurance de pouvoir produire un travail. Il y a de plus en plus de photographes, parce que je pense que ça participe justement de cette fascination pour la photographie. Donc il y a des écoles aussi qui forment.
Dont celle d'Arles.
Dont celle d'Arles, qui est très bonne. Il y a énormément de formations professionnelles. Il y a des écoles aussi qui sont plus techniques. Donc il y a toute une dynamique autour de la photographie qui c'est pas récent, mais qui est en train de se mettre en place. Et alors que des photos soient vendues très cher si certains ont les moyens de les acheter, pourquoi pas. Ça génère une sorte de buzz. Ce sera un petit peu comme dans l'univers du cinéma où il faut qu'il y ait une espèce d'énergie pour que les choses se fassent. De l'autre côté, alors on peut le voir à Paris Photo, hein, il y a énormément de galeries aujourd'hui qui ont pignon sur rue, qui exposent des photographes de talent. Il y en a aussi beaucoup qui sont tout à fait accessibles. Et puis derrière, il y a une armée de photographes qui peuvent aussi avoir beaucoup de talent, qui ne réussissent pas à trouver les modes de communication, les possibilités de communiquer leurs travaux. Donc il y a, et surtout à en vivre. Donc il y a d'un côté, effectivement, une économie qui s'est développée, et de l'autre, faut pas penser que tout le monde, que c'est l'Eldorado pour tout le monde, quoi.
Alors, William Klein, dans cette archive en 92, disait que quand il prenait une photo, c'est parce que il voudrait en faire un livre. Aujourd'hui, en 2016, vous êtes exactement dans le droit fil de William Klein. Vous faites des expos, vous vendez vos photographies à la presse, vous êtes un photographe célèbre dans le monde du photojournalisme, mais aussi, il y a le livre. Le livre qui représente peut-être, pour les lecteurs que nous sommes, une réflexion et une possibilité de compréhension de votre propre univers.
Alors, J'ai toujours été attaché au livre. J'ai commencé la photographie en fantasmant de faire des livres. Et j'en ai pas fait beaucoup, mais j'y ai toujours mis beaucoup d'énergie et de temps. Le petit livre que vous avez dans les mains, donc sur le Chiapas, s'est étalé sur une vingtaine d'années.
Êtes-vous allé au Chiapas la première fois et pourquoi ?
Alors, je me suis rendu au Chiapas en 1995, c'est-à-dire environ un an et quelques après les premiers événements.
Et faut rappeler ce qui s'est passé.
Donc, le 1er janvier 94, une date très symbolique, parce que c'est le jour d'entrée en vigueur des accords de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Des Indiens, qui faisaient pas beaucoup parler d'eux jusque-là, se soulèvent et prennent 5 villes par les armes au fin fond du Chiapas.
Donc, au Mexique.
Au Mexique. Le Chiapas est un petit état qui se trouve à la frontière du Guatemala, qui est un état très pauvre, peuplé par des Indiens qui principalement cultivateurs de café, éleveurs, mais qui est aussi un état très riche puisque il produit une grosse partie de l'électricité du Mexique grâce à des barrages hydroélectriques, qui a des grandes forêts, enfin il y a énormément de richesses. Et les Indiens qui se nomment zapatistes, en référence bien évidemment à la révolution du début du siècle dernier de Zapata, demandent liberté et respect de leurs droits. Ils ne demandent pas l'indépendance comme c'est souvent le cas dans les guérillas d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, mais ils demandent simplement à être écoutés. Donc très vite, ils déposent les armes au bout d'une dizaine de jours et ils demandent un dialogue. Il y a un cessez-le-feu et s'ensuit un dialogue qui dure environ 2 ans et qui n'aboutit jamais. Donc on en est toujours en une sorte de status quo. Mais entre-temps, à partir de 2003, donc quasiment une dizaine d'années après l'insurrection zapatiste, les zapatistes décident de prendre en main leur propre autonomie et construisent des écoles, des cliniques, des systèmes de communication entre eux, dans des zones autonomes dans le Chiapas. Et ces zones autonomes existent toujours et fonctionnent relativement bien. Et elle refuse toute aide du gouvernement. Donc on a une sorte de petit état dans l'état, dans le grand état, et l'autonomie avance.
Donc quand vous êtes parti la première fois au Chiapas, Matt Jacobs, c'était dans l'idée de pouvoir comprendre ce qui était perçu par certains intellectuels européens. Il y a eu pas mal de Français, grands intellectuels, qui sont partis aussi. Ils ont fait le voyage, certains y sont restés, etc., comme une sorte d'utopie révolutionnaire qui se concrétiserait.
Alors, moi, je suis parti...
Révolution agraire, révolution de la définition du pouvoir, possibilité de l'instauration d'une démocratie égalitaire.
Voilà. Et tout ça, je l'ai lu dans un livre qu'a écrit le sous-commandant Marcos, donc personnage emblématique du mouvement, en décembre de 1994, me semble-t-il, donc quelques mois après l'insurrection. Il a rassemblé des communiqués militaires, puisque donc il fait partie de l'EZLN, Armée Zapatiste de Libération Nationale. Et il a mixé les communiqués militaires avec de la poésie, avec des textes d'inspiration de contes mayas. Et tout ce mélange m'a fait l'effet d'une photo, un peu comme ce que je racontais tout à l'heure. Ça m'a fait dire qu'il était peut-être possible de faire de la politique autrement et de voir le monde autrement. Et évidemment, derrière, il y avait tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un mouvement intellectuel qui a porté espoir chez les zapatistes, parce qu'ils incarnaient à la fois une nécessité de reprendre le monde en main. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est l'origine des mouvements altermondialistes vient du Chiapas. Donc après, on a connu, à partir de 1999, des mouvements très importants, organisés, notamment à l'OM contre l'Organisation mondiale du commerce qui avait lieu à Seattle, ensuite à Prague en 2000, à Québec en 2001, etc., etc. Et les apatistes ont été étonnamment précurseurs de ça, parce que encore faut-il rappeler que c'était des villages qui, pour la plupart, n'ont pas l'électricité, ont à peine des routes, sont soit excentrés dans des montagnes très isolées ou au fin fond de la forêt tropicale. Donc, il se passait vraiment quelque chose que j'arrive toujours pas à expliquer d'ailleurs aujourd'hui, de passionnant. Donc, je m'y suis rendu d'abord suite à la lecture du livre « Yabasta » de Marcos. Et petit à petit, je me suis investi dans les communautés zapatistes. Enfin, investi, disons que j'ai fréquenté les communautés zapatistes, et notamment un petit village dans lequel je suis souvent retourné au fin fond de la forêt lacandone. Et j'ai découvert une culture. Et j'ai découvert des petits hommes humbles, beau, que j'ai trouvé beau, et je suis retourné les voir. Enfin, quand je dis beau, c'est pas physiquement beau, ils sont beaux parce qu'ils incarnent une vie simple et une lutte simple par rapport à un monde qui déraille, quoi. Et donc, j'y suis retourné cette fois jusque il y a 2 ans à peu près pour le dernier voyage.
Alors, vous en avez fait un livre qui est absolument remarquable. Il faut noter que les photographies que vous y publiez avec des courts textes montrent la dignité de ce peuple, le montrent en train de travailler, en train de se réunir, en train de vivre des séances collectives rituelles. On y voit aussi des photographies extrêmement violentes puisqu'elles sont le témoignage de massacres manifestement auquel vous avez assisté. Et là aussi, je pense que votre rôle de photographe permet justement d'être aussi historiographe de cette histoire ô combien méconnue. Nous allons écouter la voix du sous-commandante Marcos. C'était au micro de Daniel Mermet à propos de l'avenir de ce mouvement zapatiste. C'est une archive de l'émission « Là-bas si j'y suis » sur France Inter du 9 mars 2001. Commandante Marcos, que vous avez rencontré, puisque il figure dans cet ouvrage.
Estamos ahorita en la puerta de dejar una forma de hacer política.
Nous sommes au moment de laisser une manière de faire de la politique pour en faire une autre.
La política que hacemos hasta ahora detrás de nuestros pasamontañas.
Celle que nous faisons actuellement derrière nos passe-montagnes.
Y pasar a una forma de hacer política sin el pasamontañas, pero con las mismas ideas.
Nous allons faire la même politique avec les mêmes idées, mais sans passe-montagne.
Ce que vous aviez inventé en 94, c'est de dire « nous ne voulons pas le pouvoir ». Vous avez surpris en disant « nous ne voulons pas le pouvoir ». Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ?
Nous pensons que le pouvoir
no está ya en los estados nacionales.
N'est plus dans les états nationaux.
El poder está en los grandes centros financieros.
Le pouvoir est dans les grands centres financiers.
En ese sentido, el problema no es quién está en el poder.
C'est pour ça que le problème, ce n'est pas qui est au pouvoir,
sino la relación del poder con los ciudadanos.
Sino la relación du pouvoir avec les citoyens.
En ese sentido, nosotros pensamos que la lucha por el poder político.
C'est pour ça que nous pensons que la lutte pour le pouvoir politique.
Es la lucha por una mentira.
Est une lutte pour un mensonge.
Y finalmente, lo que vamos a hacer es cambiar una visión del mundo por otra visión del mundo.
Et ce que nous voulons, ce que nous allons faire, c'est changer une vision du monde contre une autre vision du monde.
Une hégémonie pour autre hégémonie.
Une hégémonie pour une autre hégémonie.
Tu dis que ton mouvement est un mouvement parmi d'autres. On a parlé d'archipels, des résistances. Si c'était des îles, qu'est-ce que tu verrais comme autre résistance avec lesquelles tu peux t'identifier ou que tu peux rejoindre ?
Fundamentalmente, en el caso de Europa, con la resistencia de los migrantes.
Fundamentalmente, en Europa, la resistencia contra los, cas des emigrants.
Contra los que se ha construido una política de racismo y de segregación muy fuerte.
Qui subissent une politique de ségrégation et de racisme.
Tu veux parler des sans-papiers?
En concreto, el movimiento sans-papier en Francia. Y en Europa, pues.
Fundamentalmente, les sans-papiers en France et en Europe.
Finalmente, se trata de que la gente se arrepienta de su color, de su raza y de su país d'origine.
Tout ça, c'est destiné à ce que les gens aient honte, se repentent de leurs origines, de leurs couleurs.
Finalmente, l'acte de nacimiento.
Finalement, leur acte de naissance.
Es un crimen.
Est un crime.
Y es perseguido como tal.
Et c'est comme ça qu'on le poursuit pour cela.
Se les ha construido una imagen de criminales.
On les considère qu'on leur a fait une image de criminels.
Y una falsa imagen de minoría.
Et on les a considérés que faussement comme une minorité.
En el mundo actual esa es la gran trampa. Todos los que se rebelan y son diferentes son minorías.
En fait, c'est un grand mensonge dans le monde. Tous ceux qui se rebellent sont considérés comme des minorités.
Nous venons d'entendre la voix du sous-commandante Marcos. Aujourd'hui, donc, cette archive date de 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2016. Que devient-il? Pourquoi on n'en parle plus du tout? Et que se passe-t-il dans le Chiapas, Matt Jacob?
Je pense qu'il y a eu un essoufflement de l'extérieur par rapport à une actualité qui n'était plus aussi chaude qu'avant. Je crois que à partir de cette archive date de 2001, il y a eu un événement très important. C'est en 2001, les apatistes sont. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est elle est très belle. Donc à l'occasion de l'élection de Vicente Fox, ex président de Coca-Cola, qui devient président du Mexique en 2001, les apatistes profitent d'un changement de gouvernement et un changement du parti du révolutionnaire institutionnel qui était au pouvoir depuis plus de 70 ans pour négocier avec le gouvernement. Donc une chance. Au cours de sa campagne, Vicente Fox dit « Mais le problème du Chiapas, je vais le régler en 20 minutes. » Donc les apatistes le prennent à la lettre et disent « Si c'est le cas, on va monter à la capitale, on va monter à Mexico et on va régler le problème en 20 minutes. » Donc ils organisent ce voyage, 24 commandants prennent un bus, suivi par, je ne sais pas si je dirais qu'il y avait un convoi d'une centaine de véhicules ou 150 véhicules, absolument incroyables. Et au cours de 3 semaines, ils font le chemin vers la capitale en faisant quelques détours dans les grandes villes du Mexique, dans lesquelles ils débattent tous les soirs pour parler de la situation du Mexique. Et ils sont accueillis sur le bord des routes par des milliers de personnes. Donc ils arrivent à Mexico, la foule remplit le Zocalo, qui est, je crois, la plus grande place d'Amérique latine, me semble-t-il. Donc un succès incroyable. Il y a aussi une présence d'une commandante zapatiste au Sénat, qui demande le respect des droits des Indiens qui avaient été signés en 1996. Suite à ça, essoufflement des négociations, non-respect des droits de la part du gouvernement. Les apatistes, donc bien évidemment, rentrent chez eux et continuent à cultiver leur champ et à faire de la politique chez eux. Et en 2003, ils décident de monter ces zones autonomes, de travailler sur la construction de leur société, de leurs écoles, leurs cliniques, leurs hôpitaux, etc. Et ils laissent un peu passer, je pense, le contact qu'ils avaient avec l'extérieur. Tandis que, d'un autre côté, je crois aussi que le mouvement altermondialiste, on va dire après le 11 septembre 2001, a tendance un peu à s'essouffler. On se demande vers où va le monde, et les altermondialistes ne sont plus aussi présents à ce moment-là. Chez eux, j'y suis allé en décembre 2013, janvier 2014. Les communautés, donc j'en ai été témoin, sont toujours là, existent toujours. Par contre, évidemment, il y a moins de personnes. Alors, il y a une époque, on a pu voir José Bové, Daniel Mitterrand, Alain Touraine.
Carmen Castillo.
Carmen Castillo, bien sûr, qui a fait un film magnifique, La véridique légende du sous-commandant Marcos, dès fin 94, avec Tessa Brissac. Et beaucoup de personnes donc sont vraiment focalisées par cette histoire. Donc le mouvement les apatistes existe plus que jamais. Marcos s'est effacé puisque étonnamment, en mai 2014, il a tué son personnage. Il ne s'appelle plus le sous-commandant Marcos. Le sous-commandant Marcos n'existe plus. Il s'est transformé en sous-commandant Galeano. Il a pris l'identité d'un jeune zapatiste qui s'est fait assassiner par des groupes paramilitaires. Donc on revient à la question que j'ai pas répondu d'ailleurs tout à l'heure concernant la présence de groupes paramilitaires dans la région. Et il co-signe actuellement des textes avec le sous-commandant Moises, qui est un commandant zapatiste indien. Et effectivement, la présence de Marcos n'est plus aussi puissante et ne déborde plus les frontières comme c'était le cas avant. Je ne saurais pas dire pourquoi. C'est une décision du mouvement en interne. Je pense qu'ils ont beaucoup de travail. Je pense qu'à un moment donné, ils ont peut-être eu le sentiment d'être trop portés vers l'extérieur. Ils ont reçu énormément, enfin au-delà des people un peu dont je vous parlais tout à l'heure, ils ont reçu énormément de visites de représentants de mouvements divers et variés, européens, sud-américains, américains, etc. Donc je sais pas, peut-être il y a eu une fatigue, il y a rien officiel qui se dit là-dessus. Toujours est-il que il y a des communiqués qui continuent de tomber via Internet quasi toutes les semaines, où ils alertent de la situation tendue avec les groupes paramilitaires qui sévissent dans la région, et où ils informent de l'avancée de l'autonomie des zones autonomes zapatistes.
En avez-vous terminé, vous, Matt Jacob, avec le Chiapas? Allez-vous y revenir? Et quand vous choisissez un terrain d'investigation, vous impliquez à la fois personnellement, intellectuellement, politiquement, pendant quelquefois des dizaines d'années, quand est-ce que vous sentez qu'il faut lâcher l'affaire?
Alors, je pense que j'ai fait le tour de la question du mouvement zapatiste pour y avoir beaucoup... je me suis beaucoup attardé pendant les 10 premières années. Je retournerai au Chiapas prochainement, je ne sais pas quand, notamment parce qu'il me semble que j'ai le devoir d'aller remettre en main propre...
votre bouquin.
Le petit photopoche... notamment au village dans lequel j'ai beaucoup photographié et où j'ai raconté la vie des gens et le quotidien des personnes du village. Je m'intéresse ensuite à d'autres sujets. S'il venait à se passer quelque chose d'important au Chiapas, c'est possible que je m'y rendrai. Et je suis sur un projet avec Carmen Castillo, que vous avez évoqué tout à l'heure, de film sur le Mexique, avec une question qui est plus large que la simple question du Chiapas et qui est en cours de fabrication et qui est à l'état de projet aujourd'hui.
Savez-vous danser?
C'est subjectif, je sais pas. Je crois que j'aime danser. J'ai été très surpris par la capacité des zapatistes à danser tout le temps. Dès qu'il y a une occasion de danser, ils dansent. Donc il y a des orchestres dans tous les villages. Et je ne sais pas si je sais danser, mais j'aime danser. Oui.
Savez-vous ce que c'est qu'un corps en mouvement?
En tant que photographe, oui.
Donc pour ça, on en revient au nom de votre collectif, Tendance Floue. Il faut savoir que une photographie qui dit votre vérité peut être floue. Et doit peut-être même être floue.
Oui.
Faut pas faire le point, forcément.
Non, parce que des fois, le point n'est pas possible à faire. Par contre, le flou permet de poser les questions et de laisser la question ouverte au regardeur, au lecteur, de se faire une idée de ce qui se passe. Je pense aussi que dans le flou, il y a une esthétique, il y a une grammaire, en fait, une manière de raconter les choses et de laisser les portes ouvertes à la lecture.
Vous évoquiez votre expérience au Chiapas. On a l'impression que vous êtes un photographe qui aimait vous laisser happer par des univers et vous y perdre, à condition d'avoir toujours votre appareil photographique. J'évoque là ce monde du flamenco, dont vous avez fait aussi un livre, Et quand on parcourt vos photographies, on se dit que ben, jour et nuit, vous êtes là, jour et nuit, vous célébrez la beauté des corps, que ça soit des corps extrêmement vieux, en apparence extrêmement fatigués, mais qui peut-être, eux, seuls sont détenteurs d'une vérité, et que quand on est un tout petit garçon, quand on est un très vieil homme, c'est peut-être comme la photo, d'ailleurs j'en sais rien, mais on sait ou pas danser.
Le flamenco a cette capacité et cette magie, et c'est ce jusqu'au boutisme de la danse. Et j'ouvre une parenthèse parce que pour moi ça a été très important lorsque j'ai découvert le flamenco au cours d'une commande carte blanche réalisée avec un autre photographe de tendance floue, Gilles Coulon, sur le festival de Mont-de-Marsan. On nous a demandé de faire un voyage en flamenco, de partir dans un pays, le flamenco, un pays qu'on ne connaissait pas. On arrivait dans ce pays pour la première fois, alors que il y a beaucoup de photographes qui traduisent ou qui évoquent et parlent très bien du flamenco parce qu'ils connaissent la danse et qu'ils vont réussir à saisir le duende. Alors nous, on s'est retrouvés dans les coulisses, dans les préparations des spectacles, dans les bars, dans les peñas, ce qui se passait avant et après le spectacle. Et ça improvise tout le temps. Alors le corps est là en permanence et il est là dans une espèce de flamme. Et on a découvert, et avec Gilles on parlait souvent au quotidien de ce qu'on découvrait, et on se disait mais c'est dingue à quel point il pourrait y avoir un lien entre la photographie et le flamenco. C'est l'instant T, c'est l'instant décisif du fameux Cartier-Bresson, mais qui est le duende aussi, c'est la magie de l'instant qui va être une performance parfaite, hein, et que les personnes qui connaissent bien le flamenco disent parfois le duende n'existe pas en fait. C'est toujours une quête qu'on cherche et qu'on ne trouve jamais. On peut s'en rapprocher de très près, mais on ne la trouve jamais. Et je pense qu'en photographie, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est que la photo parfaite, celle qui va effacer toutes les autres, qui va incarner la vie, n'existe pas. Il faut faire des milliers de tentatives. L'instant décisif existe, mais ce qui va en rester ne sera jamais le duende de la photographie.
Ça n'existe donc pas une belle photographie dans cet ouvrage sur le flamenco, Voyage en flamenco, Matt Jacob. Il y a plusieurs photos floues, mais c'est pas tellement ça qui est très intéressant. C'est que il y a des photos qui figent par définition un instant, qui le capturent, mais qui sont décadrés, qui ne sont pas architecturés, qui sont comme la restitution de quelque chose que vous avez vécu, et qui sont à l'opposé de ce qu'on peut apprendre, de ce que ça veut dire être photographe, faire une belle photographie. Donc ça veut dire quoi, une vraie photographie ?
Je ne pense pas qu'une photographie puisse être belle. Par contre, la vie est belle. Et par contre, la photographie tente en permanence de saisir la beauté de la vie. Mais quand on me dit « tu as fait une belle photographie », je me dis « c'est pas exactement ça ». J'ai tenté de me rapprocher de la beauté, oui. Mais c'est pas le propos de la photographie, en fait, de finir beau ou belle. Le propos de la photographie, c'est de saisir l'essence de la quintessence de la vie, quoi, de saisir un instant qui peut être aussi tragique que beau, que joyeux, que ténébreux, que humoristique, etc. Mais il faut que il y a une quête, hein, et c'est le duende, c'est la beauté, mais les photographies sont pas belles, non, elles sont elles sont autre chose, je sais pas quoi, mais c'est pas leur quête d'être belle.
Étiez-vous, quand vous étiez jeune, même si vous êtes toujours très jeune, mais quand vous étiez écolier, un bon élève ?
J'étais un mauvais élève. Enfin, j'ai eu du mal à m'investir dans. Par contre, j'ai découvert des très belles choses chez les professeurs quand ils savent transmettre. J'ai toujours été fasciné par le. Enfin, j'étais un lecteur. J'étais un grand lecteur. Donc, finalement, je faisais mon apprentissage de manière plus autodidacte. Peut-être que les autres, j'ai pas eu mon bac. Je me suis arrêté quelques mois avant. Je suis passé aussi par le lycée expérimental de Saint-Nazaire, qui était une initiative qui existe toujours d'ailleurs, mais qui était une initiative très gauchiste, on va dire, pour l'époque. Je crois que j'y étais en 84, 85, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé sérieusement la photographie parce que je m'ennuyais au lycée expérimental de Saint-Nazaire. Et donc j'ai eu un choc avec cette ville qui à l'époque allait très mal. Je pense qu'elle va un peu mieux aujourd'hui. Il y avait énormément de chômage, beaucoup de drogue, beaucoup d'alcool, une ville très grise. Et j'ai commencé à photographier, à faire mes premières photos, on va dire, d'errants. Mes errances ont commencé quand j'avais 18-19 ans à Saint-Nazaire. Donc ça m'a, donc ce passage de scolarité qui était assez bref, hein, je suis resté à peine une année, m'a beaucoup marqué. Et là, je vois que vous avez dans les mains le
un magnifique ouvrage,
Les mondes de l'école, donc réalisé avec un autre photographe de tendance floue, Olivier Kuhlmann. Donc quelques années après nos échecs scolaires, puisque ça a été différent pour lui, mais c'était aussi un échec. Et nous avons décidé de parcourir le monde à travers les écoles, dans les écoles. Et nous avons fait sur 5-6 ans une dizaine de pays chacun où on parle d'éducation. Et on a eu la chance de rencontrer chez Marval, un éditeur formidable qui nous a incité à écrire des textes qui sont devenus donc des textes relativement personnels et qui font écho aussi à notre expérience de la scolarité. Donc ce travail, c'est un travail en noir et blanc, donc qui reste très libre et très personnel et qui a une vision peut-être parfois un peu ténébreuse de la scolarité, mais qui a plein d'espoir, puisque évidemment on peut ne pas aimer l'école, mais évidemment que l'école est un passage important de la vie d'un enfant ou d'un adolescent qui grandit, et qu'elle apporte forcément quelque chose, même si on n'y fait rien.
Dernière question, vous avez donc publié ce magnifique ouvrage, vous montrez, comme je crois jamais je ne l'ai vu, l'art d'enseigner, et pas seulement, hein, y a aussi des profs qui n'y arrivent pas, mais vous avez su capter celles et ceux qui, à travers le monde, savent y arriver. Et cet ouvrage se termine par une photographie d'un élève penché sur un cahier qui, manifestement, n'a pas l'air passionné par ce qu'il fait. Mais en fait, c'est une autobiographie. Vous avez essayé de revenir dans cette classe où vous étiez très mauvais élève. Et vous avez eu beaucoup de difficultés à y parvenir.
C'est ça.
Merci beaucoup, Matt Jacob.
Je vous remercie.
Merci donc aux mauvais élèves, Matt Jacob. Vive les mauvais élèves comme vous. Voyage en flamenco, donc, c'est chez Atlantica. Chiapas, c'est dans la collection Photopoche de Actes Sud. Les mondes de l'école, c'est aux éditions Marval, avec Olivier Kuhlmann. Et le photojournalisme à la croisée des chemins, eh bien, c'est aux éditions Marval aussi. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ. Merci à Corinne Amar, Élodie Royer, Samuel Bernard. Merci à Pierre Monteil et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée.